Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons ouvrir le Saint-Livre dans 2 Timothée au chapitre 2 et le verset 8. Mais si vous le voulez bien, je vais prier le Seigneur encore un instant. Seigneur, nous sommes conscients maintenant que c'est un moment tellement important parce que nous nous trouvons devant ta parole. C'est ta parole qui communique la vie. Merci de nous aider à avoir nos cœurs, notre esprit ouvert, comme nous l'avons entendu pour la Sainte-Seine, à prendre cette nourriture dont nous avons besoin. Oui, nous avons faim, nous avons soif de toi, Jésus-Christ. Parle-nous, enseigne-nous, reprends-nous, que nous puissions accepter ce qui vient de toi. Merci de conduire et de diriger ces instants, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons le verset 8 du chapitre 2, du verset 8 au verset 15 plus exactement. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, et c'est ce que nous avons fait maintenant, il y a ce verset 8 qui peut-être peut nous surprendre. Et lorsque on parcourt la parole de Dieu, lorsque nous sommes accoutumés à la lire, ou peut-être pas d'ailleurs, nous voyons quand même que tout au long de la parole de Dieu, le chrétien, l'enfant de Dieu, à un devoir de mémoire, un devoir de se souvenir, un devoir de garder les enseignements, mais pas seulement les enseignements, les expériences, les chemins par lesquels nous sommes passés, pour que toute notre expérience spirituelle ne soit pas vaine, mais puisse servir à notre perfectionnement, puisse servir pour que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre connaissance, dans notre confiance en Dieu. Souvenir, ça veut dire rester en mémoire. Il faut, et c'est ce que ce verset 8 nous dit, il faut que Jésus-Christ reste dans notre mémoire. La version littérale dira « mémorise Jésus ». Mémorise. Et dans la parole de Dieu, et c'est en introduction, et j'ai relevé beaucoup de textes, et notamment dans le livre du Deutéronome, où nous voyons vraiment Dieu, l'Éternel, qui appuie sur ce principe, sur son désir que le peuple qu'il s'est choisi, puisse sans cesse se souvenir. Souviens-toi, je vous l'ai lu comme ça, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force. Souviens-toi et n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère. Et j'ai relevé ce verset parce qu'on veut bien se souvenir des bénédictions, de ceci ou de cela, mais Dieu va encore plus loin dans le souvenir que nous devons avoir. Il est en train de dire que lorsqu'il nous a repris, que peut-être les fois où nous avons eu une vie qui n'était plus en conformité avec sa parole et qu'il a dû nous le signaler, il faut qu'on puisse s'en souvenir. Il ne faut pas que notre vie chrétienne soit une vie où les choses spirituelles qui ont marqué notre vie soient dans le passé. L'apôtre Paul dira « J'oublie ce qui est en arrière ». Et nous devons oublier ce que nous étions avant. Nous devons oublier notre ancienne vie, notre chair, pour sans cesse tendre vers la vie de l'Esprit. Mais nous ne devons pas oublier ce que Dieu a fait, les chemins par lesquels nous sommes passés, lorsque nous avons vu la fidélité de Dieu, lorsque nous avons saisi que c'est lui qui allait nous donner la force, que c'est lui, comme nous l'a rappelé notre frère, qui a partagé la Sainte-Seine, que c'est lui qui nous a nourris, que c'est lui qui a cette nourriture dont nous avons besoin. Il ne faut pas oublier cela, parce que, et c'est là le thème de ce message, parce qu'il faut qu'on soit un ouvrier éprouvé qui n'est point à rougir. Et l'apôtre Paul va faire vraiment cette relation entre le fait de se souvenir, de se rappeler au verset 14 et de s'efforcer pour que nous puissions comprendre qu'il y a quand même un processus dans notre vie spirituelle, que nous devons nous fournir des efforts pour pouvoir nous emparer pour la suite de notre marche chrétienne, c'est-à-dire demain, après-demain, que nous puissions nous emparer des armes spirituelles pour pouvoir remporter des victoires, pour être ferme, pour être attaché et attendre le retour de notre Seigneur, pour que nous puissions être heureux de chanter ce chant. Oui, je sais qu'un jour, mes yeux vont te voir, Jésus-Christ. Et la première question qu'on pourrait se poser ce matin, lorsque nous lisons cela, parce que quand même, ça peut surprendre. Je ne sais pas, la première fois que vous avez lu ce texte, comment vous l'avez pris, je ne sais pas l'impact qu'il a eu, mais lorsque nous lisons « Souviens-toi de Jésus-Christ », Paul s'adresse à un pasteur, un jeune pasteur. Mais au travers de Timothée, c'est à nous tous que le Saint-Esprit s'adresse ce matin. Sommes-nous arrivés dans une époque où l'Église a oublié Jésus-Christ ? Sommes-nous arrivés à une période de notre vie où le Saint-Esprit ait ce besoin de nous rappeler avec délicatesse que dans notre vie, nous pouvons à un moment donné oublier Jésus-Christ ? Sommes-nous arrivés à un moment donné, à une période de notre vie ? Et Lucas, lorsqu'il a présenté les chants, nous a rappelé que nous pouvons avoir des moments difficiles, des moments de tempête, des moments où il semblerait qu'on sombre, on coule, des moments où, comme Pierre l'a expérimenté, nous avons pu sortir de la barque, mais le vent s'est laissé quand même entendre à nos oreilles. Sommes-nous à une époque où le peuple de Dieu a besoin de se rappeler que Jésus-Christ est toujours le même ? Que les promesses de Jésus-Christ n'ont pas changé, qu'il est la postérité de David. Sommes-nous à une époque où le peuple de Dieu doit se rappeler que ce que Dieu promet, il est tout puissant pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir l'amener à son terme. Dieu ne fait pas des projets qui avortent, qui échouent. Dieu ne fait pas des projets pour nous, d'une manière personnelle, concrète, pour que nous arrivions à un moment donné et où nous pouvons dire « Mais voilà, je n'ai pas pu aboutir d'une manière spirituelle avec le Seigneur. Ça n'a pas pu se finir. » Timothée était un jeune pasteur. Et peut-être que ce matin, nous sommes là, jeunes chrétiens, mais qu'importe que nous soyons convertis depuis 5 ans, 10 ans, pouvons-nous prendre cela, cette recommandation de l'apôtre Paul, d'une manière concrète pour notre vie ? Souviens-toi de Jésus-Christ, souviens-toi de lui, de Jésus-Christ, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui t'offre le pardon de tes péchés, mais c'est lui également qui est là jour après jour, qui t'accompagne dans ta vie, dans ton existence, pour que tu puisses effectivement être arrivé, du moins, arrivé à être un ouvrier qui n'a point à rougir. Et c'est là le titre de mon message. Parce que nous sommes bien obligés de remarquer, et c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, mais il le dit à nous, que si on est encouragé ce matin à saisir cette réalité qu'avec Dieu, et dans 1 Corinthiens c'est ce qui est écrit, nous sommes ouvriers avec Dieu, que si le peuple de Dieu est appelé à être des ouvriers, des personnes qui œuvrent et qui travaillent pour le maître, il y a quand même ce danger de dire, parce que je peux oublier Jésus-Christ, je peux arriver dans ma vie à rougir. Et le terme qui est utilisé là, c'est le terme que nous, peut-être, nous comprenons mieux, qui veut dire honte, rempli de honte. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte. Est-ce que ça peut arriver dans notre marche chrétienne? Est-ce que nous pouvons effectivement vivre des temps où si nous prenons la peine d'être devant la parole de Dieu, devant ce miroir, il n'y a pas peut-être cette satisfaction, bien qu'on comprend vraiment qu'on n'est jamais vraiment satisfait de nous. On comprend que quelquefois, on aimerait tellement mieux faire. On comprend que quelquefois, comme on est tous à l'école de Dieu, on a besoin de se laisser façonner et toujours davantage pour que Dieu puisse faire de nous ses vases utiles. C'est là notre désir. Mais est-ce que quelquefois, nous ne nous trouvons pas devant la parole de Dieu en ayant cette honte parce qu'on a oublié, parce qu'on ne s'est pas souvenu de Jésus-Christ. On ne s'est pas souvenu que c'est lui qui nous donne les capacités, que c'est lui qui a tout prévu, tout accompli pour notre vie, que c'est lui qui fait en sorte aujourd'hui que nous puissions être là, debout, mais debout d'une manière spirituelle, pour porter sa bonne nouvelle, pour éclairer ceux qui n'ont pas été éclairés, pour briller dans ce monde. Efforce-toi d'être un ouvrier qui accepte, et nous l'avons chanté, vraiment les chants, présenter cela. Présenter, on chante des chants qui sont tellement engageants. Seigneur, oui, que j'arrive à mourir à moi-même, que j'arrive à ne pas considérer ma vie. Mais dans la pratique, quelquefois, c'est tellement difficile. Ça peut être tellement compliqué de voir ce que le Seigneur veut faire au travers de nous et le chemin que nous devons prendre. Mais ce matin, nous voulons nous encourager, nous rappeler cette réalité que de toute manière, ce n'est pas dans la chair que nous pouvons avoir une satisfaction. Ce n'est pas au travers de notre vie charnelle que spirituellement nous pouvons arriver à faire quelque chose, à travailler, à être un ouvrier utile, efficace pour Dieu. Dans l'épître de Pierre, la deuxième épître, au verset 3, au chapitre 3, le verset 14, nous pouvons lire « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, par Jésus-Christ, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Le verset 17 nous dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Prenez garde, et c'est un encouragement de la part de Pierre, une ligne de conduite, un encouragement de la part de l'apôtre Paul ce matin, qui nous rappelle qu'il y a quand même un danger dans notre vie d'oublier, de ne pas se souvenir de Jésus-Christ. Il y a un danger parce qu'il faut être prêt, et on entend beaucoup de messages sur le fait d'être prêt, sur le fait que lorsque le Seigneur va revenir, est-ce que nous serons semblables à ces vierges sales qui ont gardé cette huile ? Est-ce que nous serons spirituellement éveillés lorsque le Seigneur va venir ? Et alors qu'on vit des époques compliquées, alors qu'il y a peut-être des épreuves auxquelles on ne s'attendait pas, alors qu'il y a peut-être des choses qui ont pris place dans notre vie, dans notre quotidien, il y a toujours cet encouragement dans la parole de Dieu. Reste fidèle, attache-toi à Jésus-Christ, demeure ferme dans ton engagement, reste quand bien même tu vois le contraire, tu vois des situations qui sont là tellement délicates dans ta vie, reste toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Un chrétien peut tomber rapidement dans ce piège de dire « Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Mais Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe dans ma vie ? Ne prenons pas le risque de nous souvenir de Jésus-Christ uniquement lorsque ça va mal. Ne prenons pas ce risque parce que nous ne serons plus dans une relation d'amour, dans une relation d'intimité, dans une relation de partage. Nous serons dans une relation excessive où nous nous servons de Jésus-Christ. Non, souviens-toi, en toutes circonstances, dans la joie, dans l'épreuve, dans les rires, dans les larmes, souviens-toi de Jésus-Christ. Vous qui avez été avertis, prenez garde. Nous qui sommes avertis, nous qui ce matin avons pu nous lever pour prendre ce saint repas, quelle bénédiction d'avoir pu entendre de nouveau ce passage où Dieu prend la peine de prendre quelques instants pour expliquer à son peuple, voilà, je t'ai donné cela pour que tu comprennes cette réalité spirituelle, que tu as besoin tous les jours de venir dans ma présence, que tu as besoin tous les jours d'être nourri spirituellement. Et on ne peut pas venir et être nourri spirituellement si on a mis de côté Jésus-Christ dans notre vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on veut lui rester fidèle, qu'on veut demeurer attaché à Jésus-Christ si on a mis Jésus-Christ de côté. Si on a voulu peut-être prendre le contrôle de notre vie à un moment donné, parce qu'il semblerait que Jésus ne réponde pas au premier abord à nos prières, il semblerait que la tempête soit là, et que lorsqu'elle n'est pas calmée de suite, nous avons un réflexe tout à fait humain, c'est de crier à la panique. Mais ce n'est pas un réflexe d'enfant de Dieu, de tout chrétien. Efforce-toi d'être un ouvrier. Efforçons-nous, mes frères, mes sœurs, ce matin, de prendre cette parole, de nous saisir de ce que Paul, de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Efforce-toi. Peut-être c'est difficile là où tu travailles. Peut-être que tu vis des temps compliqués. Peut-être que tu ne t'attendais même pas à vivre cela. Mais efforce-toi, même si c'est dur. Reste attaché au Seigneur. Même si tu ne vois pas le fruit de tes prières, reste attaché au Seigneur. Même si le monde chrétien, religieux, essaye sans cesse de venir comme pour mettre du miel sur nos bouches, de venir nous séduire avec des méthodes, avec tout un tas de choses qui pourraient remplacer Jésus-Christ, parce que ne nous leurrons pas. Si à un moment donné, nous ne nous souvenons plus de Jésus-Christ, nous avons mis Jésus de côté, automatiquement, on sera obligé de le remplacer par quelque chose d'autre. C'est mathématique. Même si je ne suis pas un grand mathématicien, c'est mathématique. Si Jésus-Christ n'est plus là dans notre vie pour nous communiquer la paix, mais on va essayer d'aller dans le monde pour chercher cette paix. Si nous avons mis de côté Jésus-Christ dans notre couple, dans notre foyer, dans notre éducation, dans notre comportement, automatiquement, si ce n'est plus Christ qui imprègne notre vie, c'est le monde. C'est le monde qui imprègne notre vie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple, pour ses enfants. Ne sois pas un ouvrier qui, à un moment donné, va devoir ressentir ce sentiment de honte. Ne sois pas un ouvrier qui a rougi, mais sois un ouvrier qui est là éprouvé et qui fait la volonté de Dieu. J'ai relevé dans la parole de Dieu, il y a un homme, et je ne saurais l'expliquer, lorsque je méditais sur ces passages, sur ce message, il y a un homme qui est venu sur mon cœur. Ce n'est pas un homme extraordinaire. Il n'est pas cité beaucoup de fois dans la parole de Dieu. C'est même un homme qui a terminé sa vie d'une manière misérable. Mais il s'est tellement imposé à mon cœur que je me suis senti obligé de vous en parler ce matin. Parce que, et je vais faire vraiment une petite pause sur la honte. Parce que la honte, c'est un sentiment compliqué. C'est un sentiment qui peut être là dans notre vie de chrétien. Et quelquefois, on a du mal à discerner si la honte que nous avons est une, alors vous comprendrez l'expression, est une bonne honte, ou si la honte que nous avons est quelque chose qui va nous amener à nous écarter complètement de la voie du Seigneur. La honte est présente, ce sentiment, la honte est présente dans toute la parole de Dieu. On en parle, Dieu en parle, et c'est quelque chose de vraiment précis. Et dans l'Ancien Testament, principalement, lorsqu'il est question de la honte, il est question du fait que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu, a laissé, on pourrait dire, à la lumière du texte que nous avons lu, que le peuple a oublié, ne s'est plus souvenu de Jésus-Christ. Et il y a un homme qui peut-être résume d'une certaine manière ce que nous partageons, c'est Ish-Bosheth. Vous le connaissez ? J'ai entendu des oui dans la salle. C'est le fils du roi Saül. Il y a quelques personnages dans la parole de Dieu. Bosheth, c'est vraiment la traduction hébreu de la honte. Il y a Jérubosheth, Ish-Bosheth, Mephibosheth, peut-être que vous connaissez peut-être un peu plus. Et chaque fois, c'est par rapport à la honte. Chaque fois, ça nous décrit une vie qui peut-être était mal partie, une vie qui était peut-être loin de Dieu, qui était éloignée, une vie de personnes qui ont connu l'Évangile, mais qui peut-être, par différentes situations, circonstances dans leur vie, ont pris des chemins de travers. Et quelques-uns ont réussi à se rectifier, à revenir sur le bon chemin, grâce à Dieu. Mais Ish-Bosheth, lui, il n'a pas réussi. Jérubosheth, c'est combattre la honte. Mephibosheth, c'est briser la honte. Ish-Bosheth, c'est homme de honte. Homme de honte. Ça peut arriver, vous savez. Et l'ennemi, c'est tellement bien. C'est tellement bien joué de ça dans notre vie. Lorsque, et je le répète vraiment volontairement, ce n'est pas pour faire une redondance dans la prédication, mais c'est pour appuyer, parce que peut-être c'est le cas d'une personne, on s'attache à Dieu, on est vraiment rempli d'amour pour notre Sauveur, mais on ne sait pas, on ne connaît pas la vie. On sait pourtant que Jésus-Christ a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Mais les soucis de la vie, et on sait tous ce que cela peut produire, peuvent bien souvent étouffer cette parole, peuvent bien souvent dessécher la parole de Dieu dans notre vie si nous ne sommes pas assez ancrés. Quelquefois, il peut y avoir des situations dont on n'arrive pas. Mais ce n'est pas parce que on vit ces choses-là, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a oublié Jésus-Christ, que toute notre vie, on va devoir rester ainsi. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Ce n'est pas ce que le Seigneur, ce que l'Éternel a toujours voulu donner à son peuple. Le message, c'est quand bien même tu t'appelles Méphibosheth, quand bien même tu es perclus des pieds, quand bien même tu es mal parti dans la vie, quand bien même tu n'as pas la royauté que tu aurais dû avoir, Dieu, lui, peut briser ta honte. Tu peux être invité tous les jours à la table du roi. C'est cela ce que Dieu veut faire et voudra toujours faire dans nos vies. Jérubéchette, combattre la honte. Peut-être qu'il y a des combats, c'est difficile. Et Jérubéchette, c'était pour Gédéon. Lorsqu'il va s'opposer à Baal, c'est Jérubal, Jérubéchette, combattre la honte. Il y a tous des moments dans notre vie où on doit prendre des décisions, mais Dieu nous aide et c'est un combat que l'on peut remporter. Mais Ishbosheth, ce n'est pas ça qu'il a fait. Et c'est un piège. Et si j'avais un cœur d'en parler, je pense véritablement que c'est pour une personne ou plusieurs ce matin. Parce que Ishbosheth, homme de la honte, il n'a pas su se saisir du plan de Dieu pour sa vie. C'était le fils du roi Saül, je ne vais pas m'y attarder longtemps, mais quelques instants. C'était le fils du roi Saül, il avait vu vivre son père, il avait vu, ou du moins il avait entendu, comment Dieu avait appelé son père, il avait perçu de quelle manière il y avait cet appel, cette onction dans sa vie. Il avait vu les batailles où il avait entendu. Aujourd'hui, on dirait il a vu les photos, les vidéos des victoires que son père a remportées. C'était un homme qui peut-être aurait pu être utilisé, même sûrement par Dieu. Mais il a vu également et il a entendu le jugement, la condamnation de Dieu sur son père lorsqu'il n'a pas écouté les commandements de Dieu. Aujourd'hui et ce matin, à la lumière du texte que nous avons lu, on pourrait dire que c'est un chrétien qui a connu Dieu, qui a vu véritablement Dieu agir, qui a vu, qui a été témoin de miracles personnels dans tellement de vies. Mais c'est un chrétien qui a vu aussi la justice, la droiture de Dieu, l'exigence de Dieu quant à la sainteté. Et c'est un chrétien qui s'est braqué, qui n'a pas su entendre, qui n'a pas voulu rentrer en lui-même, qui n'a pas voulu se saisir de la parole de Dieu comme elle est vraiment, comme une parole de grâce, une parole de bénédiction. Et la Bible nous relate en quelques versets, c'est sur deux chapitres, il me semble, deux ou trois, la vie d'Ishbosheth. Il n'a pas su se rappeler, aujourd'hui je vais le dire comme ça, il n'a pas su se rappeler de l'amour de Jésus-Christ. N'ignore jamais l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Ne crois pas que tu as pris telle et telle voie et que c'est fini pour toi. Ne crois pas que parce qu'à un moment donné, tu as pu oublier, tu as pris d'autres chemins, ne crois pas que tu ne peux plus revenir vers Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai. Et si Ishbosheth a mal fini, ce n'est pas parce que son prénom veut dire « homme de la honte ». Ce n'est pas parce qu'il portait la honte sur lui. C'est parce qu'il n'a pas su entendre la voix de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas su accepter la bénédiction de suivre Jésus-Christ, de perdre sa vie. Boschette, ça veut dire honte, je l'ai dit. Ça veut dire rougir. Vous comprenez le lien qu'on peut faire avec ce que Paul dit à Timothée. Mais ça veut dire dessécher. Dessécher. Et c'est là l'image de tout chrétien qui, à un moment donné, prend ce risque de s'éloigner, de ne pas revenir, de ne pas accepter. Et on voit, et on en voit des personnes, des chrétiens qui sont là, qui ont connu qui ont connu la grâce, mais parce qu'il se passe quelque chose, ne veulent plus rien entendre de l'Église, de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, et je veux le dire avec amour, que la finalité, c'est de se dessécher. On ne peut pas vivre loin de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans manger. On ne peut pas vivre si spirituellement nous ne nous souvenons pas de Jésus-Christ. On ne peut pas vivre constamment dans la honte. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois couvert, rempli de honte. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu rougisses à chaque fois que tu rentres dans l'église, à chaque fois que tu parles à un chrétien, parce que tu es jugé toi-même dans ton cœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons desséchés dans notre vie. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons un arbre dont les racines vont jusqu'au torrent du ciel pour puiser, pour avoir un feuillage vert, pour porter du fruit en notre temps. Ishbosheth va faire 3 erreurs et je vais les dire rapidement parce que ce n'est pas sur ça que je voudrais terminer ce message. Ça se situe dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 8 et suivant. Alors que David est roi, institué roi de Juda, Ishbosheth, de toute manière, sait que la royauté, ce n'était pas pour lui. Ce n'était plus pour la maison de Saül. Le commandant de son armée va faire une chose, et c'est quelquefois la méthode de certains chrétiens. C'est quelquefois le risque, le danger que nous pouvons avoir de réfléchir de la sorte. Le chef de l'armée va lui dire, écoute, Ishbosheth, viens avec moi, nous allons à Mahanaïm, et là je vais te faire roi. Et Mahanaïm, ça veut dire, c'est le camp de Dieu. Le réflexe, ce que nous pouvons faire, risquer dans notre vie, c'est de croire qu'on peut oublier Jésus-Christ, mais sans cesse venir dans le camp de Dieu. Ce n'est pas possible, et c'est l'erreur qu'Ishbosheth a fait. C'est de croire que finalement, la solution est dans la religion, dans les rites, dans ce que nous pouvons faire, répéter constamment. Ce n'est pas la volonté de Dieu, et ce n'est pas ça qui va nous récupérer. La deuxième erreur d'Ishbosheth, ça va être lorsque Abner, c'était la personne la plus proche de lui, va décéder. La Bible nous dit qu'il va être figé dans la terreur. Il va être déstabilisé. Son erreur, ça a été de mettre sa force, sa confiance sur un homme. Parce que lorsque l'homme n'est plus, c'est la chute. Et c'est bien souvent ce que des personnes font lorsque on ne se souvient plus de Jésus-Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de remplacer par autre chose. De remplacer par Abner, par quelqu'un qui est là, qui conseille, qui est éloquent. Mais ce n'est pas ça la solution. La troisième erreur qu'Ishbosheth va faire, c'est alors qu'il va s'endormir. Et alors qu'il va s'endormir, 2 hommes vont venir et vont l'assassiner dans son sommeil. Dans Romains, nous pouvons lire, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous saisir, de saisir ce que Jésus-Christ veut que nous puissions faire. La nuit arrive, on le sait. Le jour est sur son déclin. Les temps que nous vivons sont des temps prophétiques. Ce sont des temps que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Nous voyons sous nos yeux la parole de Dieu s'accomplir d'une manière parfaite. Et de ce fait, nous comprenons que Jésus-Christ va revenir. Je me souviens de cette chrétienne. Sa maman était malade. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Et sa maman, toute sa vie, avait rejeté l'Évangile. Et à la fin de sa vie, la maman est tombée malade, gravement malade. Elle a eu un cancer, elle est décédée. À la fin de sa vie, cette femme venait à l'église, écoutait le message de l'Évangile. Elle commençait à être fidèle aux réunions, la maladie s'est aggravée. Elle est partie, cette jeune chrétienne priait. Priait, Seigneur, est-ce que ma maman est sauvée ? C'est des questions, des fois, vous savez, on peut se poser, on a toujours envie de savoir, même si ça appartient au Seigneur. Seigneur, est-ce que ma maman est sauvée? Un jour, ou plutôt une nuit, elle va faire ce rêve. Elle va rêver, c'était l'enlèvement. Elle était chez elle avec sa maman. Un ange du Seigneur vient chez elle pour prendre sa maman et pour la prendre elle. Et je vous dis ça, non pas pour vous expliquer que sa maman était sauvée. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. N'oublions pas Jésus-Christ. Et cette jeune chrétienne, alors qu'elle voit sa maman prise, emportée par l'ange, l'ange qui vient la voir pour lui dire « Viens, il faut partir », elle va dire dans son rêve « Mais attends, il y a encore plein de personnes qui ne te connaissent pas ». Et l'ange va lui dire « Mais c'est trop tard ça, il fallait le faire avant ». C'est trop tard pour eux. C'est trop tard. C'est l'heure. Et Ishbosheth, et je le répète, ce n'est pas parce qu'il s'appelait homme de la honte qu'il a fini comme ça. Ce n'est pas parce que toute ta vie tu as entendu ceci ou cela sur toi que tu es appelé à t'endormir et à mourir spirituellement, à oublier Jésus-Christ, à oublier les promesses, à oublier ce que Dieu a mis sur ton cœur dans ta vie. On peut se réveiller. On peut saisir. Éphésiens nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous pouvons vivre cela. Nous pouvons vivre cette réalité qu'aujourd'hui, en 2015, nous pouvons être un ouvrier éprouvé qui n'est point à rougir, qui soit là apte, conscient, qui soit nourri de la parole de Dieu, qui fasse la différence dans ce monde et que nous soyons des témoins parce que c'est cela qui importe, c'est cela que nous devons faire. Et j'aimerais terminer en vous citant un homme. Parce que il y a deux personnes qui sont venues sur mon cœur. Ishbosheth et Tichik. Je ne sais pas si c'est un prénom que vous avez retenu. Peut-être que vous avez mis dans le coin de votre tête pour le jour où vous allez avoir un enfant. Mais ce n'est pas un prénom qui est répété de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Tichik. Et je pense que si il y a un risque, un danger d'être un Ishbosheth, de se laisser prendre, de rejeter Christ, de ne pas revenir. Il y a quand même, et je le redis parce que c'est une bénédiction, d'être cet ouvrier éprouvé qui n'est point à rougir. Je vais vous lire trois versets où Tichik est noté. « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. » Colossiens nous dira, « Tichik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. » Dans 2 Timothée, nous pouvons lire, « J'ai envoyé Tichik à Éphèse. » Tichik, c'est l'ouvrier qui porte la parole, qui porte les épîtres de l'apôtre Paul. Tichik, je pense ce matin que c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Notre rôle, ce que nous devons faire, nous souvenir, bien sûr, je ne vais pas y revenir, nous souvenir de Jésus-Christ, mais porter les épîtres, porter la parole. Être un homme bien-aimé, être fidèle, être un compagnon de service, c'est ce que nous devons être ce matin, mais pas seulement ce matin, vous le comprenez, tous les jours de notre vie. Tichik, la signification, la racine du mot, c'est frapper le but. L'image, c'est quelqu'un qui a un javelot à la main, qui va lancer ce javelot, et le javelot va atteindre la cible. Frapper le but. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et là vous aurez compris l'image, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a une autre racine dans son nom, et l'autre racine, ça veut dire donner naissance. Donner naissance. produire un fruit. Produire du fruit. Mes frères, mes sœurs, soyons des tichiques. N'oublions pas Jésus-Christ. Ne soyons pas des chrétiens qui s'endorment parce que nous avons été frustrés. Soyons des tichiques, soyons des ouvriers pour le roi des rois. Donnons naissance, donnons la vie en Christ à ceux qui n'ont pas la vie. Portons du fruit là où Dieu nous a placés. Frappons le but, que nos prières puissent atteindre ce but. Frapper, atteindre la cible pour la gloire de notre Seigneur. Paul pourra dire « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et je terminerai avec ce verset. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. » Et le mot « confus », c'est « honteux. » Qu'à son avènement, nous ne soyons pas honteux et éloignés de lui. Demeurons en lui. Demeurons en lui. Et si quelqu'un, peut-être ce matin, n'a pas encore pris cette décision, si ce matin quelqu'un se dit « mais je me suis endormi spirituellement, je suis endormi, je suis mort. Spirituellement, j'ai la honte, il y a la honte sur ma vie, le déshonneur, l'éloignement. » J'aimerais vous rappeler que c'est possible d'implorer, de crier au Seigneur Jésus-Christ, de vous souvenir de Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité pour le pardon de nos péchés, parce qu'il veut qu'on se souvienne de lui tous les jours de notre vie et il veut vous accorder le pardon de vos péchés. On prie le Seigneur un instant. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est vivante. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que nous soyons des tichiques, des ouvriers qui acceptent l'épreuve, des chrétiens qui acceptent les temps difficiles pour être façonnés par toi, afin que lorsque tu vas revenir, nous n'ayons pas à rougir, nous ne soyons pas confus, nous ne soyons pas dans la honte, nous ne soyons pas éloignés de toi. Seigneur, aide-nous à être attachés, aide-nous à te glorifier. Aide-nous à nous rappeler ce que tu as fait. Aide-nous à te glorifier, à porter cette nouvelle, afin que nous puissions vraiment voir ta gloire, briller comme des témoins, comme cette lumière. Oui, Seigneur. Mon Dieu, je veux te prier, peut-être il y a un bien-aimé qui s'est éloigné, qui est loin de toi, couvert de honte, qui se dessèche petit à petit. Seigneur, qu'il puisse retrouver en toi la vie. Mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait et accompli. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.